Chapitre 12. C'était le lendemain que Madame de Javerlac et son fils devaient venir à Cordes. Ils arrivèrent, comme la première fois, accompagnés du franciscain, sans lequel, décidément, ils ne pouvaient point faire deux pas. Mademoiselle de Puylaurens était assurément la femme la moins coquette du monde, et c'était bien à propos de la toilette qu'elle pouvait justement dire « En quoi ne suis-je pas un homme ?» Cependant, elle avait eu l'idée que sa petite nièce n'était peut-être pas assez riche en robes, et elle lui en avait commandé une à Toulouse, par lettre et en ces quelques lignes qui montrent comment elle entendait l'élégance. « Faites-moi, d'après le corsage et la longueur de jupe que je vous envoie, une robe suffisamment habillée pour un dîner, modeste et décente cependant. C'est pour ma nièce, âgée de 15 ans. Je m'en remets à vous pour l'étoffe, la couleur, la forme, le prix. » Et la couturière de Toulouse avait envoyé une robe en surin blanc avec des garnitures en moire rubis, ce qui avait renversé Mademoiselle de Puylaurens. « Descends, le rubis ! Descends !» s'était-elle écriée. Cependant, Geneviève, ayant trouvé la robe jolie, Mademoiselle de Puylaurens ne l'avait pas renvoyée comme elle en avait eu tout d'abord l'intention. En arrivant, Madame de Javerlac embrassa Geneviève et le jeune comte, après être resté un moment en admiration devant elle, s'avança la main tendue comme pour la lui donner, ce qu'il n'osa pas faire cependant, devant un regard de son précepteur qui l'arrêta net. Le dîner et la soirée furent ce qu'avaient été le dîner et la soirée de la première visite. Comme la première fois, elle fut placée entre la mère et le fils, et comme la première fois aussi, Madame de Javerlac lui posa toutes sortes de questions, sans que le jeune comte pût trouver l'occasion de parler. Mais s'il ne lui dit que peu de choses, par contre, il la regarda beaucoup, ou pour mieux dire, il ne la quitta pas des yeux, malgré les signes que le franciscain, qui voyait son attitude inconvenante, lui adressait à chaque instant. Quand, après dîner, on la fit mettre à l'orgue, il vint s'asseoir près d'elle, mais non à côté, en face. Et il resta là, recueilli, absorbé dans une muette admiration, ne répondant ni à sa mère ni à son précepteur, ne parlant que pour la complimenter avec feu et avec une émotion qui le rendait tremblant. Elle avait cru que, comme la première fois, il repartirait le lendemain. Mais en entendant parler d'une promenade à la commanderie de Vahour, où Mademoiselle de Puylaurens voulait montrer à ses hôtes le donjon en carré barlong qui est un monument du XIIIe siècle, elle vit qu'elle s'était trompée et qu'elle aurait encore à subir les conversations de la mère et les regards du fils pendant une journée au moins. Tout d'abord, elle en fut dépitée, puis, après réflexion, elle se dit qu'il valait mieux qu'il en fût ainsi. Si elle laissait ce jeune muet la regarder avec ses yeux passionnés, il pourrait s'imaginer qu'elle était touchée de son admiration, et elle ne voulait point que cela fût. C'était, croyait-elle, une sorte de trahison envers Ernest. Pendant cette journée, dans cette promenade, elle trouverait bien, sans doute, l'occasion d'être seule quelques instants avec lui et de lui faire connaître ses sentiments. Elle n'eut pas à attendre la promenade. Le matin, avant le déjeuner, elle l'aperçut dans le jardin et alors elle descendit pour le rejoindre. Pendant le temps qu'elle avait mis à venir de sa chambre, n'osant pas courir de peur d'attirer l'attention, il s'était enfoncé dans le jardin et elle le vit prendre l'allée circulaire qui conduit au bois de Magnolia. Alors elle suivit l'autre bras de façon à le croiser à un certain moment. Quand il l'aperçut venant vers lui, il s'arrêta stupéfait. Elle hâta le pas car il se trouvait justement à une courte distance de l'endroit où elle avait dit à Ernest qu'elle l'attendrait, et il lui plaisait que ce fût là que fut tranchée la question de ce mariage, comme si, en parlant, elle devait avoir celui qu'elle aimait devant les yeux. Elle ne tarda pas à le rejoindre, car après le premier mouvement de surprise, il avait repris sa marche, venant vers elle, tandis qu'elle venait vers lui. Mais, tout en avançant, elle se demandait si elle allait pouvoir lui ouvrir les lèvres et le décider à parler. À la vérité, pourvu qu'elle parlât elle-même, cela suffirait. Seulement, si, au lieu d'un muet, elle avait un interlocuteur devant elle, sa tâche serait singulièrement simplifiée. Après tout, elle n'avait que deux mots à lui dire. « Comme je ne vous aime pas, je ne serai jamais votre femme. » Bravement, elle alla à lui, tandis que, non moins résolument, il venait à elle, et tous deux en même temps, ils prirent la parole. « Je suis vraiment heureuse de vous rencontrer ici, monsieur. C'est pour moi un bonheur inespéré de vous trouver seule dans ce jardin, mademoiselle. » Entendant cela, elle se tut, se disant que puisqu'il avait commencé, il valait mieux l'écouter que de prendre les devants pour qu'il répondît lui-même et engageât une discussion. « C'est beaucoup que ma mère et mademoiselle de Puylaurens soient d'accord pour notre mariage. Mais ce n'est pas assez, il faut que nous soyons d'accord nous-mêmes. » Il était tremblant, le visage pâle, les lèvres décolorées, ému, non seulement de ce qu'il avait à dire, mais encore troublé par l'attitude de Geneviève qui n'avait rien de sympathique. Cependant, il continua. « Je ne vous apprends rien, mademoiselle, en vous disant que vous avez produit sur moi une impression que je suis impuissant à qualifier. Mes regards, mon émotion, mon trouble, mon admiration vous l'ont révélé. Je vous avoue que, quand ma mère m'a amené ici, je n'étais pas du tout disposé à l'admiration. Je savais qu'il s'agissait d'un mariage projeté entre elle et mademoiselle de Puylaurens, et il ne me convenait pas qu'on eût ainsi arrangé mon avenir sans moi. Mais je vous ai vu et j'ai ressenti l'émotion la plus profonde, la plus délicieuse que j'ai encore éprouvée. Instantanément, ma vie a été liée à la vôtre. Je n'ai plus rêvé qu'à vous. Vous avez empli mon souvenir et mon espérance, mon esprit et mon cœur. Et ce mariage, dont je ne voulais pas avant de vous connaître, est devenu mon unique pensée du jour où je vous ai connu. » Plusieurs fois, Geneviève avait voulu l'interrompre, car ce langage l'a blessée. Qu'on lui parlât d'amour, c'était un outrage à son amour. Et au lieu de regarder le jeune comte, elle tenait ses yeux fixés droit devant elle, au loin, dans la prairie, à l'endroit où Ernest serait dans quelques jours et où il était déjà pour elle. Elle ne s'était contenue que pour voir ce qui était arrangé entre Madame de Javerlac et sa tante et à quel point en étaient les choses. Ne fallait-il pas qu'elle le sût pour le dire à Ernest, de façon à préparer sûrement leur défense? Mais cette affirmation d'espérance qui la révoltait lui fit rompre le silence qu'elle s'imposait. « Ce mariage est impossible, » dit-elle. Il fut décontenancé. « Impossible, impossible, » murmura-t-il. Au lieu de voir le désespoir qu'il y avait dans cette exclamation, elle n'y vit qu'un doute. « Impossible, » s'écria-t-elle d'un ton affirmatif. Il fut un certain moment à se remettre. « Certainement, dit-il enfin, je n'ai point la prétention d'avoir pu produire sur vous une impression comparable à celle que vous avez produite sur moi. Ce serait absurde et d'un orgueil qui n'est pas dans mon caractère. »« Eh bien, alors, » interrompit-elle sèchement. « Mon Dieu, mademoiselle, pardonnez-moi si je vous fâche. »« Vous ne me fâchez pas, vous me surprenez. »« Je vous surprends ?» Elle était exaspérée par cette insistance. Puisqu'elle lui avait dit que ce mariage était impossible, pourquoi s'obstinait-il à ne pas comprendre? « Vous me surprenez, dit-elle, par votre insistance. Il m'avait semblé que ce n'était pas votre habitude de tant parler. » Il eut un moment de stupéfaction douloureuse. Mais tout d'un coup, il se remit et se fut presque gaiement, au moins avec un entrain nerveux, qu'il répliqua « C'est donc cela qui vous a déplu en moi? Vous ne voulez pas d'un mari sans volonté qui n'ose élever la voix ni devant sa mère ni devant son précepteur? Eh bien, vous avez joliment raison. » Vous trouvez, dit-elle. Si vous saviez comment j'ai été élevée, vous comprendriez cette réserve, ou si le mot ne vous paraît pas juste, cette timidité. C'est l'effet d'une habitude prise, non du caractère. Plusieurs fois, j'ai voulu échapper à cette tutelle qui, je le sens bien, est ridicule à mon âge. Je n'ai pas pu. Mais si j'avais une femme pour me soutenir, elle me donnerait la force de résister. Elle me défendrait contre ma propre faiblesse qui, dans une certaine mesure, est faite de tendresse pour ma mère et de respect pour mon précepteur. Et puis, si vous avez peur de subir cette influence et cette autorité, rassurez-vous. Soyez sûr que je n'ai pas l'intention d'imposer à ma femme l'intimité, une intimité étroite et de tous les instants, avec ma mère et le père Élisée. Au contraire, elle m'aiderait à la rompre, cette intimité. » Puis, comme elle ne répondait rien, écoutant curieusement ses explications, qui étaient une révélation de ce caractère, Il crut qu'il avait touché et il se fit presque gai. « Croyez bien que j'en ai assez de l'existence recluse. Ça fait bien, c'est chic, mais ce n'est pas drôle. Ce n'est pas cette existence-là que je vous offre. Une fois libre, nous nous amuserons et rondement, je vous le promets. Ce que vous voudrez, je le voudrai. Vous me donnerez des idées, les vôtres seront les miennes. Ni Corne, ni Javerlac, mais Paris, ou bien Vienne, ou bien l'Italie, tout m'est égal, vous serez maîtresse. » Elle secoua la tête. « Vous ne me croyez pas, je vous donne ma parole. »« Je vous crois, mais je vous ai dit que ce mariage était impossible et je ne peux que vous le répéter. Je ne l'accepterai jamais. »